Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport chaque semaine. Retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport, au cœur des débats, au plus proche du terrain, sont présents avec nous. Notre arbitre de chaise en régie, c'est Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Gilles, salut à toutes et tous.
Il coach et organise un grand tournoi à La Verrière, c'est Ryan Mudo. Salut.
Salut Gilles, salut à tous.
Il a l'œil avisé sur l'octogone, son prénom John, son nom n'est pas Jones. Désolé, salut John.
Bonsoir tout le monde.
Notre invité aujourd'hui, il est directeur sportif du Trap Passing Shot, club de tennis, vous l'avez compris, c'est Jean-Jacques Cellier qui est avec nous en studio. Bonjour Jean-Jacques.
Bonsoir Gilles et bonsoir à tous.
Parlons sport, cours et cage au programme, le détail avec le sommaire. Dans quelques instants, l'édito de Parlons Sport avec Julien qui va nous parler d'un boxeur français qui va retrouver les rings dans quelques semaines. Dans la mêlée, ensuite, on va parler de tennis avec le début de l'Open d'Australie. Le point sur les tableaux, les chances de Djokovic, Nadal, Świątek et consorts. On étudie tout ça dans quelques instants. Et on reviendra sur l'annonce du partenariat brisé en Coupe Davis. Comment en est-on arrivé là ? Du MMA dans Parlons Sport, comme souvent, retour sur le combat de Nassourdine Imavov contre Sean Strickland qu'on présentait la semaine dernière. Ça ne s'est pas bien passé pour le franco-daguestanais. Et puis la planète MMA en ébullition. Francis Ngannou quitte l'UFC. Cyril Gann versus John Jones, combat annoncé. Le point avec John dans quelques minutes également. Et puis la parole sera à notre invité Jean-Jacques Cellier, directeur sportif du Trap Passing Shot, développement et projet du club à venir. Voilà pour ce sommaire, l'édito, c'est avec toi Julien.
Hé hey, Toshiba là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, le connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds, connard?
Dix mois après son échec face à Bacolé, Tony Yoka va remonter sur le ring face à Carlos Takam, 42 ans. Ce sera le 11 mars prochain à Paris. Alors je pense qu'il n'y aura que deux questions, selon moi en tout cas, à se poser sur ce combat. La première, pour Yoka, ce combat représente-t-il une réelle progression ? Alors lui dit que c'est l'adversaire le plus fort qu'il ait eu jusque-là, c'est sûrement vrai. Takam a toujours été une menace pour les grands de sa catégorie. On se souvient notamment de son combat contre Joshua. Mais Takam a plutôt la réputation d'être un faire-valoir, donc un boxeur qui va mettre en valeur son adversaire. Alors est-ce que Takam représente une porte d'entrée dans le top 10, comme l'affirme Yoka ? Absolument pas. C'est simplement un petit coup médiatique qui s'adresse à un public franco-français, quitte à affronter un nom connu à l'international pour remonter en selle, autant aller chercher un Américain, mais ça, voilà, c'est pas le choix qui a été fait ici. Donc tout ça sonne clairement comme un retour en arrière pour Yoka, ou en tout cas du surplace, ce qui répond à ma deuxième question, ce combat relance-t-il la hype autour de Tony Yoka ? Non, puisque rien n'avance pour lui, on verra peut-être comment ça évolue plus tard. Alors attention, j'ai pas envie non plus de tirer sur l'ambulance, c'est facile de critiquer, mais c'est très différent d'être sur le ring. En tout cas, Gilles, rendez-vous le 11 mars pour un combat qui offrira quand même son petit lot de divertissement.
Merci Julien, c'est marrant parce que ce matin, j'étais en train de regarder justement les stats de Tony Yoka, 30 ans, à peine 12 combats professionnels. Je n'en dirai pas plus. Voilà, tout de suite, jingle, la mêlée.
Oh, quel geste ! Exceptionnel geste !
Et dans la mêlée, dans Parlons Sport, du tennis et du MMA, et voilà, on aura, je pense là, un Français, un vrai champion quand on parlera de MMA, qui combattra d'ailleurs dans ces eaux-là, je crois, mars-avril, le combat est annoncé, mais on verra tout ça avec toi, John, dans quelques minutes. On va d'abord parler de tennis. C'est le début. Non, vas-y, on va mettre un petit jingle tennis.
Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments.
C'est fini pour Gaël, mon fils.
Disons que moi, j'essaie de faire des points tennis, tout. Oui. Bon, c'est sûr qu'en premier set, bon, 6-0, ça a été un petit peu dur. Après le deuxième set, 6-0. Voilà, j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse.
Libérez-moi ! J'en peux plus d'être ici !
Mais quand même, au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente.
Oui.
6-4.
6-0.
6-0 ?
6-0, oui.
T'es sûr ?
C'est le début de la saison des grands chelems en tennis. Les yeux sont rivés sur l'Australie comme à chaque mois de janvier. Et messieurs, petite question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en 18 ans de tournoi d'Open d'Australie, seul un joueur est parvenu à perturber la domination du trio Federer-Nadal-Djokovic. Lequel ?
Wawrinka.
Ah ouais.
Ouais, Wawrinka pour... ouais, c'est une bonne réponse, franchement. Ouais. C'est, je comptais vous piéger comme ça d'entrée de jeu, mais non, Stan Wawrinka, c'était en 2014 qui avait gagné contre Nadal. Je crois que c'est la finale où Nadal a mal au dos, hein.
Tout à fait.
C'est ça.
Où Nadal a mal au dos, mais malgré ça, il est quand même présent sur cette finale-là.
Et Nadal est toujours présent sur cette Open d'Australie. C'est quand même assez incroyable, hein, quand même sur deux décennies. Deux décennies de compétition, on a toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, bah, cette fois-ci, il n'y a plus Federer, hein, mais on aura toujours du Nadal Djoko sur cette nouvelle édition de l'Open d'Australie. Qui, pour aller les contrarier, alors il figure toujours parmi les prétendants. On a aussi du Medvedev qui est présent, du Tsitsipas, du Félix Auger-Aliassime. Voilà, ce sont, et puis d'autres noms qui sont à la mode en ce moment. Holger Rune, Casper Ruud, ou bien encore l'Allemand Zverev. Alors, première semaine de compétition, pour l'instant, pas trop de surprises. Mais là, sur la dynamique des récents tournois. Alors, retour en grâce pour Djoko, on se souvient de la précédente édition où c'était quand même assez spectaculaire, hein, Djokovic non vacciné qui s'est fait chasser par toute la classe politique australienne qui avait demandé son départ, décision politique de virer Djokovic vraiment à quelques heures du début du tournoi. Cette fois-ci, il est là. On va voir comment le public, et puis a priori, bah, le public se comporte plutôt bien avec lui. Nadal est également présent, et puis bah, il était, c'est le tenant du titre, hein, tout simplement, Rafael Nadal. Alors qui déjà pour aller perturber ces deux-là ? Est-ce que vous voyez, messieurs, eh bien, ces deux dinosaures du tennis faire une grosse perf sur cette nouvelle édition ?
Et bah, pour répondre à cette question, on a quand même un Djokovic qui reste sur un tournoi gagné juste avant. Il a montré que malgré qu'il soit entre guillemets âgé, hein, pour le sport, qu'il est encore là, il fait des bonnes performances. Et un Nadal par contre qui arrivait un peu moins en confiance, mais qui a eu un premier tour assez difficile. Et justement, ce genre de match-là, ça permet aux grands joueurs de pouvoir... justement se mettre en jeu, se mettre en place, et petit à petit il va commencer à prendre un peu plus de confiance, parce qu'il parlait aussi de ça juste avant l'Open d'Australie, qu'il avait un petit peu un manque de confiance, et ce genre de match là justement va le remettre dedans. Après, pour aller chercher ces deux grands hommes, hein, très clairement, il pourrait y avoir un Medvedev qui a fait une bonne impression sur son premier tour, et un Tsitsipas aussi d'ailleurs, qui a battu d'ailleurs un Français, Quentin Alice, un Holger Rune qui pourrait éventuellement, à voir s'il sera constant dans ses performances. Par contre, un Zverev qui, lui, revient de blessure, pour moi, je ne le mettrais pas forcément sur une personne qui pourrait aller les chercher actuellement, peut-être dans les mois à venir, mais pas actuellement, pas sur cette Open d'Australie-là.
Jean-Jacques, le jeu des pronostics
Alors, sur le jeu des pronostics... Bon, déjà, il y a une petite information. L'accueil est chaleureux, effectivement, pour Djoko à Melbourne. Donc, ça, c'était intéressant. Alors, c'était peut-être une décision politique, mais il y a eu malgré tout une décision judiciaire. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte.
Sous la pression politique, quand même.
On est d'accord, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Voilà. Donc, mais c'est vrai que... Il y a cette blessure, apparemment, on ne sait pas ce qui se passe là pour la cuisse de Djokovic, hein, puisqu'il a montré quelques signes de faiblesse lors de sa finale contre Sébastien Corda à Adélaïde. Et puis là, il arrive un petit peu, voilà. Mais en tout cas, l'homme à abattre, je dirais, ou en tout cas le favori de ce Melbourne de l'Open d'Australie, c'est évidemment Djokovic. Nadal sera un peu en retrait parce qu'il arrive avec quelques défaites. Et puis, même si par habitude on dit que Nadal, à chaque fois on dit que ses premiers matchs sont laborieux, mais il s'en sort très bien. Moi, je mettrais quand même une petite pièce. Tout le monde dit que le tableau de Nadal est beaucoup plus compliqué avec Tsitsipas, Medvedev et Tiafoe. Moi, je pense personnellement que le tableau de Djoko est plus compliqué avec Holger Rune. Et puis surtout, un joueur qui cesse de montrer un petit peu l'écro là depuis pas mal de tournois, c'est Taylor Fritz qui sera vraiment très très à surveiller dans ce tournoi, je pense. Et je mets une pièce sur Sinner également.
Et ça fait beaucoup de pièges, Jean-Jacques, là.
Ça ne fait que deux, Taylor Fritz et Sinner.
Donc pour toi, Jean-Jacques, Djokovic, l'homme à abattre, et pas aller avec nous au téléphone, on a l'homme des débats, Aliou. Salut Aliou.
Salut Gilles, salut à tous.
Aliou, pour cette Open d'Australie, on était en train de faire le point sur les différents prétendants. On a du Djoko, on a du Nadal et puis on a des grosses cotes aussi qui peuvent semer le trouble. Quel est ton point de vue, toi, là, sur ce début de compétition qui tu sens bien en jambes?
Ouais, pour Djokovic, déjà, il faut savoir qu'il est quand même amoindri un peu. Il a une gêne. Même si tout à l'heure ça s'est pas trop vu, il a fait un excellent match, 6-3, 6-4, 6-0. Et on voit que Djokovic il a faim. On l'a vu en début de préparation de tournoi aussi, il gagne un tournoi à Adélaïde contre Sébastien Corda, un match qu'il aurait dû perdre, clairement, mais il le gagne. Donc oui, Djokovic, clairement favori, si physiquement tout va bien, surtout qu'il a une partie de tableau, franchement, c'est une autoroute qu'il a devant lui. Il y a même Berrettini qui est sorti de sa partie de tableau aujourd'hui sur un super match contre Andy Murray. Donc ouais, moi je trouve qu'il a une autoroute devant lui et je le vois très très mal ne pas rallier la finale.
T'es pas d'accord avec notre invité Jean-Jacques qui nous disait que c'est au contraire Djokovic qui a une partie de tableau difficile.
Tout à fait. Aliou. Tout simplement parce que je pense que Djokovic a un ascendant psychologique sur tous ses joueurs depuis de longues années. À part peut-être Medvedev, mais sur les dernières rencontres, je crois que Medvedev perd les quatre dernières rencontres contre Djokovic. Il a un ascendant. Donc je dirais, si son tableau, c'est comme d'habitude, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, qu'il bat depuis longtemps. Donc là, il y a une dimension psychologique qui joue. Alors que quand on voit Holger Rune jouer Djokovic, d'ailleurs, il a plus de mal que Nadal à gagner contre la Next Gen. Alors que Nadal gagne beaucoup plus facilement contre la Next Gen, lui il en a perdu pas mal, parce que je pense qu'il a un tel ascendant que finalement s'il avait eu ce tableau forcément qu'on dit extrêmement difficile pour Nadal, je pense pour Djokovic c'est pas un tableau difficile en fait avec ces joueurs qu'il a plus que battu. Les autres, Taylor Fritz, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, il avait mené 2-7 à rien contre Djoko avant que Djoko ne fasse semblant d'être blessé, etc. Ça avait fait une grosse polémique.
Jean-Jacques, mais c'est l'inverse. C'est Djokovic qui menait 2-7 à rien.
Exact.
Et Taylor Fritz était revenu. Et clairement, Djokovic n'avait pas fait semblant de quoi que ce soit, parce que Taylor Fritz, déjà, à l'époque, il faisait à peine peur. Donc Djokovic n'avait strictement rien à perdre. C'est juste qu'il avait vraiment une gêne. Ensuite, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que Djokovic, aujourd'hui, tu me parles de Holger Rune, mais Holger Rune, sur la distance au meilleur des 5-7, il ne peut pas tenir contre un Djokovic. On l'a vu dans la finale à Bercy, il le dit même lui-même. J'ai pris un warning exprès parce que je pensais que j'allais faire un arrêt cardiaque et je ne pouvais plus tenir. On était dans le troisième set. Sur la longueur et la distance du meilleur au 5-7, il ne tiendra pas. Pour moi, aujourd'hui, Djokovic, son meilleur adversaire dans cette partie tableau, c'est lui-même. C'est tout. Mais sinon, pour le reste, je ne vois absolument pas un Casper Ruud l'embêter, ni un Andy Murray, pas plus qu'un de Rune. Berrettini est tombé aujourd'hui. Il reste qui vraiment sur cette partie de tableau? Zverev vient de revenir. Donc non, moi je pense absolument pas que sur cette partie de tableau, il est en difficulté. Contrairement à Nadal, par contre, qui lui a un parcours du combattant sur sa partie de tableau. Il a éventuellement Tsitsipas, il a Medvedev pour aller éventuellement dans une demi-finale face à Tsitsipas et jouer Djokovic en finale. Je ne pense même pas que Nadal, pour être honnête avec vous, sera en deuxième semaine. De ce que j'ai vu dans son premier match avant-hier, je ne pense pas que Nadal pourra rallier la deuxième semaine tellement il est diminué physiquement et mentalement.
Alors comme comme tous ces joueurs là à Lyon, on a toujours des premiers tours un petit peu timides pour Nadal et ça a souvent été le cas sur des balles très très courtes côté coup droit par exemple. Mais étonnamment hier, malgré un match assez serré contre Draper, on voit que la longueur des balles est bien plus importante que les années précédentes. Donc il fait un premier tour, effectivement, Draper a mal aux abdominaux, mais il fait un premier tour assez intéressant, même si on dit que ça a été laborieux. Tu vois, il y a des éléments là à comparer, ça va être intéressant. J'ai trouvé, par exemple, Djokovic extrêmement nerveux à Adélaïde, au point même de virer son frère des tribunes. Et puis, il y a quand même balle de match contre lui, hein. Une balle de match contre lui par Sébastien Corda qui devait de toute façon reporter le tour. Mais là, ça montre toute la grande volonté de Djokovic. Et puis, clairement, il est en mission. On sait qu'on a deux égos démesurés depuis le départ de Federer. Il est venu gagner le tournoi, égaler donc le nombre de grands chelems de Nadal et puis le dépasser d'ici quelques mois, ce qu'il fera de toute façon. Mais pour autant, je l'ai trouvé extrêmement nerveux. Et aujourd'hui, contre Baïna, malgré un score fleuve, et même s'il a contrôlé la partie, on voit qu'en début de match, il y a quelques agacements de sa part et quelques regards vers son clan. Donc je le trouve extrêmement nerveux. Et quand on sait que juste à l'US Open, quand il perd contre Medvedev, c'était parce que juste il était parti pour un grand chelem plus les Jeux Olympiques, et on a vu comment il pouvait être extrêmement dans l'émotion et extrêmement fragile. Et là, je pense que le fait d'atteindre ces 22 grands chelems, je le sens en tout cas extrêmement dans l'émotion et assez fragile. Ce sera à vérifier, même si ça reste le favori de l'Open d'Australie cette année une nouvelle fois.
Alors moi, je pense que l'objectif des 22 grands chelems, oui, c'est quand même une de ses priorités, mais c'est pas la première. Parce qu'encore une fois, là, il y a un double objectif. Il peut rallier Nadal à 22 grands chelems, mais il peut aussi faire la passe de 10 en gagnant cette année. Donc il y a un double objectif. Mais il faut rappeler que Djokovic, il est surtout là pour rafler tous les titres. Donc à partir du
coup.
Donc en fin de compte, avoir 22 grands chelems, pour lui, c'est qu'un plus. Mais très honnêtement, Djokovic, sur son match, même s'il a paru un petit peu fragile au début. Mais c'est toujours comme ça sur ses premiers tours. Il y a toujours un petit moment, il va montrer un petit moment de fragilité. Mais par contre, quand on voit le score, il paraît quand même assez sec. 3-7-0, un 6-0 dernier set. Et pour revenir sur Nadal, quand il a des premiers tours compliqués, on le voit. Mais par contre, ça le fait monter en puissance. Justement, on peut penser qu'il va avoir des difficultés par la suite. Mais si on regarde le nombre de fois où il a eu un premier tour assez difficile, derrière, il rallie toujours à deuxième semaine, il est toujours en quart voire demi-finale et à les trois quarts du temps il gagne le tournoi. Donc pour moi, avoir un premier tour difficile ou c'est pas forcément une contrainte pour la suite.
Ryan, faut pas oublier que Nadal, hormis Roland Garros, il n'a jamais su défendre son titre dans un autre tournoi du Grand Chelem. Et Nadal aujourd'hui est le tenant du titre à Melbourne, donc ça toute sa vie ça a été comme ça, Rafa Nadal. Et surtout le miracle qu'il a eu l'année dernière, je pense pas, aucun de nous le pense, aucune personne sérieuse qui suit le tennis pense que Rafa Nadal va gagner cette année le tournoi. S'il fait une deuxième semaine, lui-même il sait qu'il aura fait un très bon tournoi. Après, à surveiller dans sa partie de tableau Tsitsipas, qui peut devenir le numéro 1 mondial en l'absence de Carlos Alcaraz, il peut rappeler la place de numéro 1 mondial, ça ce n'est pas rien. Et en général, le tennis, lorsqu'on fouille un peu dans l'histoire du tennis, lorsqu'un joueur arrive dans un tournoi et qu'à la fin du tournoi, il peut être auréolé il peut être floqué de ce numéro 1 mondial, en général, ce joueur-là soit va très loin, soit il gagne le tournoi. Donc, s'il passe, à surveiller, je pense.
Ouais, il y a aussi le Canadien Ogier Aliassime, hein, dans la partie de tableau de Nadal, je crois bien, aussi cité parmi les prétendants à un premier titre cette fois-ci. Par contre, messieurs, je ne vous ai pas entendu citer Richard Gasquet. Il faut quand même qu'on parle des Français
Richard,
il est forcément en pleine forme, il arrive d'une victoire dans un tournoi, il bat le 12e mondial,
ouais, titre donc, inattendu de Richard Gasquet,
titre inattendu effectivement, et puis un premier tour normalement où il a déjà à maintes reprises battu Humbert. Je crois que l'année dernière il bat déjà Hugo Humbert, donc il est lancé. Donc je pense que, comme il l'a dit lui-même, voilà, il n'y a pas d'âge, il y a toujours le plaisir, la persévérance. Donc je ne miserai pas une pièce pour autant, ouais, sur Richard Gasquet, ça va de soi. Mais
t'as plus de pièces.
J'en ai plus. Et en plus, j'en ai plus. Donc ça tombe bien. Mais oui, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir. De revoir le prince à ce niveau-là, ça c'est sympa.
En tout cas, ça sera notre transition pour parler d'une Française et du tableau féminin de cet Open d'Australie. Est-ce l'heure de Caroline Garcia, celle qui a gagné le dernier Masters féminin? Elle apparaît parmi les principales prétendantes au titre. Est-ce l'année ou jamais pour la Française? Aliou, bien sûr, fervent défenseur et qui fait figure d'oracle ici. Aliou, il avait annoncé avant tout le monde la victoire de Garcia au Masters. Qu'est-ce que tu as à nous annoncer, Aliou, cette fois-ci?
Bah, moi, je pense, après la finale au Masters, de toute façon, je l'ai dit, je pense que Caroline Garcia, elle a les cartes pour aller gagner cet Open d'Australie. En début de tournoi, moi, je l'ai annoncé, je pense que Caroline Garcia va gagner. Mais le seul souci, il y a vraiment un petit bémol, c'est que devant elle, elle a la numéro 1 mondiale, la deuxième et la troisième mondiale qui jouent super bien, à savoir Swiatek, Pegula et Ons Jabeur. Même si Ons Jabeur tout à l'heure, son match, c'était vraiment Ons Jabeur. Par contre, tout à l'heure, c'était vraiment le tirage au sort à ne pas avoir. Elle l'a eu malheureusement. Et elle s'en est sortie en 3-7. Mais ça joue très, 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 très bien.
Oula, attention, enfin Caroline Garcia aussi, ça peut tomber d'emblée contre Leila Fernandez. Hein.
Ouais, contre Leila Fernandez, ça va être compliqué.
C'est pas facile hein, comme tirage. Hein.
Ça va être compliqué, mais je pense que Caroline Garcia aujourd'hui, elle est tellement en confiance. Elle a tellement un jeu qui elle survole son jeu en fait, elle a vraiment trouvé son jeu, son équilibre, et elle sait qu'en fait c'est limite l'année ou jamais, et sachant que cette année elle n'est pas allée en double, elle s'est concentrée uniquement sur le simple, je pense qu'elle battra Leila Fernandez en 2-7 et elle ira très loin dans ce tournoi là. Si Ons Jabeur tombe avant les demi, c'est magnifique pour elle, elle est sûre de rallier la finale. Bon, après avec des si on peut refaire un monde. Mais je pense vraiment que Caroline Garcia peut aller chercher ce titre-là. Et je pronostique même une finale Caroline Garcia Jessica Pegula. Et cette nuit, et j'en finis avec ça. Et cette nuit, on a un match de fou. Par contre, il faudra vraiment être devant la télé entre Coco Gauff et Emma Raducanu. Mmh. Ce match-là, faut pas le rater.
Ouais, bon après Raducanu quand même. Voilà, le jour elle aura un coach. Avec lequel elle aura plus d'un mois de collaboration, peut-être que ça sera sérieux.
Alors peut-être que c'est quand même pas le coach quand même, c'est juste on gagne un tournoi du Grand Chelem après être sorti des qualifications, même si on a fait un très bon résultat juste avant à Wimbledon. Je veux dire, maintenant il faut que son jeu se mette en place. En règle générale, quand on arrive sur le circuit, la moyenne c'est 2-3 ans avant de, voilà, là donc elle gagne, c'est pas prévu, il faut que son jeu se mette à maturité, il faut qu'elle apprenne et qu'elle comprenne qu'elle ne gagnera pas avant un certain temps et que je pense de toute façon qu'il n'y aura pas match contre Coco Gauff et que ça va être une victoire éclatante de Coco Gauff qui elle est sur une évolution progressive et linéaire contrairement à un exploit sur un tournoi. Voilà.
Ouais, tout ça dans la partie de tableau de Gasviatek. Hein. Aliou, ouais.
Ouais, je voulais demander à Jacques, il dresse des pièces.
Jean-Jacques.
Alors, Aliou, je suis d'accord avec toi pour Jessica Pegula pour la finale. Je vois pas Garcia, même si j'aimerais beaucoup. Et c'est Pegula, en revanche, qui arrive au bout et qui gagne le tournoi, oui.
Ah, donc, Pegula qui éliminerait Swiatek, alors. Alors, quand même, Swiatek, c'est deux titres en 2022. C'est celle qui est annoncée comme la reine du tennis qui fera la loi prochaines années. Hein. Elle est encore jeune.
Non mais Gilles, pardon. Iga Swiatek, moi je la vois s'arrêter en huitième de finale. Hein, Iga Swiatek. Sur sa partie de tableau, j'avais jeté un coup d'œil sur sa partie de tableau. J'ai oublié qu'est-ce qu'elle joue en huitième de finale, mais c'est un match piège. Et moi, au vu de ce que j'ai vu hier sur son match, elle devait perdre le deuxième set, et elle a failli s'embarquer dans un troisième set, elle se l'est évité. Elle n'est pas très 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 en jambes. L'année vient de commencer. Moi, je pense pas qu'Iga Swiatek ira très loin dans ce tournoi-là. C'est pour ça que je vois Jessica Pegula en finale. Et j'espère voir un final Jessica Pegula contre Caroline Garcia. Et je pense que Caroline Garcia ne laissera pas du tout, mais pas du tout, la chance passer. Quoi.
Je pense que Pegula, ça tombe en quart contre Sakkari. Hein.
Ouais, mais Jessica Pegula, elle est tellement en confiance, elle a tellement un jeu. Moi, je la vois venir, Jessica Pegula, depuis l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, ici, on en avait parlé. Et j'en avais parlé, je disais que comme quoi, la seule personne que je voyais battre éventuellement Iga Świątek à l'US Open, c'était Jessica Pegula. Elle s'était rencontrée, si je dis pas de bêtises, en demi ou en quart de finale à l'US Open. J'étais assez déçu du rendement qu'elle a pu rendre ce soir-là. Mais Jessica Pegula, aujourd'hui, elle a tout ce qu'il lui faut pour battre les meilleurs. Elle a le jeu, elle a le physique, elle a le mental, elle a un jeu énorme. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui Jessica Pegula, clairement, et en plus elle fait un très très bon début de saison, je pense qu'elle ira loin. Je la vois même en finale, clairement.
Ryan, toi c'est plutôt Caroline Garcia, Iga Świątek, Pegula ou alors une autre?
Alors pour moi déjà Caroline Garcia, elle a sa pièce à jouer, hein, cette année. Très clairement, là, son premier tour, elle a été quand même assez autoritaire, donc premier tour qui est passé. Elle a clairement ses chances à jouer, contrairement aux années précédentes où justement on la sentait un petit peu fragile, et là on sent qu'elle a vraiment une confiance. Son tennis, elle le sent bien, elle est lancée. Pour parler de Świątek, un premier tour assez compliqué, hein, mine de rien. 6-4-7-5, elle a failli partir au troisième set. On la sent pas trop sûre d'elle sur ce premier tour. Donc est-ce que ça va durer? Est-ce qu'elle va se remettre en confiance? Ça, il y aura que le prochain match qui nous le dira. Mais c'est vrai que Świątek, par contre, gagner le tournoi, j'ai un peu moins de certitude sur ça.
La finale la plus logique, quand même, ce serait Świątek contre Ons Jabeur, hein, la Tunisienne.
Alors,
ce sont celles qui ont le plus d'expérience dans les matchs clés, dans les grands chelems.
Alors, il y a quand même un élément clé pour Jabeur, quand même. On voit déjà ce premier tour, mais déjà qu'elle arrive à gagner un match difficile, alors qu'en règle générale, jusqu'à présent, elle les perdait plus ou moins. Bon, déjà deux finales de Grand Chelem depuis, c'est plus la même joueuse. Mais il y a un élément clé quand même. Il fait plus de 35 degrés là à Melbourne. Et le gros souci de Jabeur, au bout de la première semaine et au bout de 3-4 matchs, c'est le physique qui lâche complètement. Mais alors complètement. Et comme son jeu est un jeu, bah voilà, c'est une magicienne, Jabeur. Elle est juste fantastique et extrêmement agréable à voir jouer. Le problème, c'est quand on arrive en retard sur une balle, on peut avoir le bras qu'on veut. Ça ne suffit pas. Donc là, il y a un élément par rapport à Jabeur qui est justement la température et son physique qui risque d'être un tout petit peu juste, même si elle a eu l'habitude de battre depuis les juniors Caroline Garcia. Mais cet élément-là est rédhibitoire pour Jabeur. C'est trop compliqué pour elle. Gérer 15 jours à 35 degrés à Melbourne.
Bon, en tout cas, les jeux sont faits.
Vas-y,
Aliou, fini.
Moi, je suis partiellement d'accord avec Jean-Jacques, mais il faut savoir qu'on se dit Jabeur. Elle a bénéficié quand même d'une elle va continuer à bénéficier d'une très bonne programmation, parce que comme tu l'as dit aujourd'hui, circuit féminin masculin confondu, c'est très difficile de faire meilleur jeu qu'on Jabeur. C'est une magicienne, elle fait rêver les gens, et donc du coup on ne la fera pas jouer en day session, on la fera jouer systématiquement en night session. Donc déjà ça c'est un énorme avantage pour elle. Ensuite les 35 degrés, heureusement ça va pas être pendant toute la quinzaine. Et donc moi je pense que sur ce côté-là, physiquement, plus le tournoi va avancer, plus elle va s'améliorer, et surtout en deuxième semaine, il y aura plus de matchs, quasiment plus de matchs en day session, elle jouera uniquement en night session. Donc moi je pense que Ons Jabeur ira loin. Et Ons Jabeur, son problème, c'est un peu comme Novak Djokovic, c'est que sur sa partie de tableau, son seul ennemi à elle, c'est elle-même. On l'a vu aujourd'hui contre Świątek, en fait, elle était assez stressée. Alors qu'elle avait le jeu, certes, c'était un match piège, on le savait dès le départ, mais elle avait tout pour elle pour finir ce match-là en 2-7. Et à un moment donné, c'est dans sa tête où ça s'est mal passé, et au final, elle a bataillé pour aller finir le match en 3-7. Donc pour moi, on se dit d'abord, si mentalement, elle est prête à aller au combat et elle ne se pose pas de questions, clairement, même une Caroline Garcia, dans toute sa splendeur, dans toute sa forme, n'a aucune chance contre cette joueuse-là.
Ok, messieurs, bah, écoutez, on va refaire le point assez régulièrement dans Parlons Sport. On vous a enregistré, hein, donc on verra qui a mis les bonnes pièces en fin de quinzaine. On va rester sur du tennis et on va aborder une autre actu qui est tombée. Ce n'est pas vraiment une surprise. La Coupe Davis, qui a été largement réformée avec l'appui d'un footballeur, Gérard Piqué, qui est donc le PDG de la société Cosmos, qui avait racheté les droits pour organiser la Coupe Davis, avec des promesses assez alléchantes, hein, des millions et des millions d'euros pour la Fédération internationale de tennis, pour les 8 nations qui devaient se rencontrer sur un court laps de temps, et puis flop total, puisque l'organisateur Cosmos donc, n'a pas payé les équipes qui avaient participé à la dernière édition. Donc contrat rompu, quel avenir pour la Coupe Davis ? On n'en sait rien, mais alors j'ai envie de vous dire, messieurs, moi franchement, la Coupe Davis, nouvelle version, je ne l'ai jamais regardée. Je ne sais même pas qui diffuse, quelle chaîne diffuse cette compétition. Je ne sais pas si vous aussi vous avez lâché à ce moment-là, mais la Coupe Davis quand même, c'est bah, les matchs qui se déroulaient sur un week-end complet, un peu tout le temps dans l'année. On avait vraiment une préparation médiatique et puis une visibilité sur cette compétition, et puis on avait des joueurs qui voulaient la jouer. Là, il n'y a plus rien du tout. Ryan, est-ce que tu es surpris ? Est-ce que quel bilan tu peux nous faire de cette Coupe Davis à la formule assez, assez trompeuse ?
Alors, moi, j'avais dit que cette Coupe Davis n'allait pas forcément fonctionner, parce que justement, avant qu'il y ait ce contrat, la Coupe Davis n'était pas très suivie. On sentait que la Coupe Davis commençait un peu à mourir. Donc, en fin de compte, c'est pour ça qu'il y a eu ce contrat avec Cosmos. C'était pour essayer de redonner vie à la Coupe Davis. Sauf que faire ça sur une semaine avec quelques équipes, et comme tu disais, on ne sait pas où on pouvait regarder les matchs, on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette compétition. La première année, c'était une année où ça se lançait, mais par contre, derrière, ça n'a pas suivi, parce que même quand on regarde les équipes qui étaient alignées avec les joueurs, il n'y avait pas forcément les grands joueurs, alors que la Coupe Davis de base, on arrivait quand même à voir les meilleurs joueurs de chaque nation. Donc c'est là aussi la grande différence. Et surtout, ce qui a un peu cassé la Coupe Davis, hein, c'est ce qui se passe en début d'année. Donc il y avait eu l'ATP Cup, il me semble, cette année, même les années précédentes, en Australie. Donc ça a un peu remplacé le système de la Coupe Davis. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, chaque pays qui était aligné à l'ATP Cup alignait ses meilleurs joueurs et ça faisait de meilleures compétitions. Et quand on arrivait en fin d'année avec la Coupe Davis, c'était pas suivi. On a perdu cette magie en fait de la Coupe Davis.
Jean-Jacques, tu t'y retrouvais avec cette nouvelle formule ?
Non, évidemment non, mais que moi je m'y retrouve ou pas, c'est pas la question. C'est quand on a les élites et les présidents de différents pays qui annoncent d'entrée leur inquiétude par rapport à cette Coupe Davis, mais malheureusement, parfois, je dirais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand on met les millions sur la table, tout le monde suit, alors que tout le monde est d'accord pour dire que ça va être un fiasco. C'est-à-dire, c'est un fiasco annoncé. Hein. C'est chronique d'une mort annoncée, cette Coupe Davis sous cette formule-là. Moi, ce qui interroge, c'est que de plus en plus, et quels que soient les sports comparés, c'est qu'à un moment donné, quand on met les sous, déjà quand un footballeur vient s'intéresser à du tennis ou vice-versa, c'est toujours particulier. Quoi, quand dans le monde du foot arrive dans le monde du tennis, déjà là, pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors évidemment, il était temps, parce que quelle purge quand même. Ouais, j'ai malgré mon envie d'essayer de comprendre et de voir, parce que comme disait Ryan, on voyait bien que les matchs les 5 matchs du week-end, la Coupe Davis, ancienne formule, c'était pas, ça commençait à être compliqué. Donc la télévision, il fallait écourter un peu les matchs. Donc pas de problème sur l'idée de changer. Mais là, ce qui était important, c'était juste de dire que tout le monde était ok, que ça allait être un fiasco. Et aujourd'hui, tout le monde est aussi content, et voilà, parce que on paye pas, mais la raison, c'est pas forcément, évidemment que c'est l'argent qui guide le monde, mais non, c'était vraiment une vraie purge, et il était temps que ça s'arrête, cette mascarade de Coupe Davis.
Aliou, je crois que tu soutenais Djokovic qui soutenait cette compétition, non ?
Non, pas du tout.
Non, je plaisante. Pas,
je pense que tu plaisantes. Je suis un peu comme toi, Gilles. Moi, j'ai jamais regardé. Parce que j'ai jamais, moi non plus, j'ai jamais compris, j'ai jamais essayé de comprendre en vrai. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vient, un footballeur effectivement, vient faire de l'ingérence, je trouve que c'était clairement de l'ingérence dans le monde du tennis, il aurait dû se préoccuper de ce que devient le football. Et oui, c'était un leurre, on le savait dès le départ, tout le monde a alerté, les plus grandes figures du tennis, les présidents de fédération, les anciens présidents, tout le monde a dit que comme quoi ça ne tiendrait pas la route, et effectivement, même le format lui-même ne tenait pas la route, Il n'y avait rien de passionnant dans tout ça, et puis à un moment donné, bah, faut se poser les bonnes questions. Et l'ancienne version non plus, fallait la réformer. Elle arrivait à bout de souffle parce que tous les joueurs qui gagnaient la Coupe Davis se retiraient, on ne les voyait plus. On voyait que Roger Federer, par exemple, a tout fait pour la gagner. Une fois qu'il a gagné en 2016, si je ne dis pas de bêtises, ou 17, j'ai oublié, depuis on ne l'a plus revu. Pareil pour Novak Djokovic, lorsqu'il la gagne en 2011, après tous les ans, bon, c'est un peu du cinéma, il vient, il ne vient pas. Rafa Nadal, pareil. Et dans ces tournois-là, on attend vraiment les meilleurs. Et je pense qu'il faut une réforme, il faut une réforme, il faut une refonte totale. Et ils se sont tournés vers le mauvais investisseur, la mauvaise personne. Et c'était un leurre, c'était un choix dégueulasse. Tout le monde l'a décrié. Ils n'ont pas entendu à la fois les fans de tennis et toutes les personnes qui gravitent autour de ce monde. Et aujourd'hui, on en arrive là. Et malheureusement, la Coupe Davis, je pense qu'elle est définitivement morte. Enfin, je ne l'espère pas. Mais j'aimerais voir aujourd'hui comment l'ITF, l'ATP et tout le tralala qui tourne autour du tennis vont faire pour s'en sortir. Mais ça va être très, très, très compliqué.
Ouais, je ne pense pas que le public tennis soit écouté, soit la priorité hein, des décideurs en la matière. Hein. C'est concrètement, Cosmos a promis de l'argent, n'a pas versé l'argent promis. Donc, ciao. Écoutez, on va suivre ça de près aussi. Merci à Liu, on va enchaîner. Je sais que tu es très occupé à Liu, hein, à veiller sur les matchs.
Bonne nuit, je vais continuer à dormir parce que, comme vous le savez, tous les ans, on règle notre monte à l'heure de Melbourne. Donc là, il est 7h10 pour moi et je vais continuer à dormir. Et puis, rendez-vous cette nuit pour les matchs.
Okay. À cette nuit.
Et bon petit déj à toi, à Liu. Merci à Liu. Messieurs, voilà, parlons sport. Suivi régulier de l'Open d'Australie, comme chaque saison. On va maintenant passer de Melbourne, on va retourner à Las Vegas pour ce qui s'était passé sur l'octogone avec un franco-daguestanais. Tout de suite, jingle. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. I'm the best ever.
Fighting Holyfield is a right hand. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
He's crying in his corner. I've never seen anything like this.
If you win, you win. If you lose, you still win.
It's unbelievable. T'as pas mal, c'est pas mal. T'as pas mal, c'est pas mal.
It's over. I'm gonna show you how great I am.
C'est assurément une déception, le combattant du Daguestan Nassourdine Imavov s'est incliné à la décision le week-end dernier à Las Vegas contre Sean Strickland, le combattant de la dernière minute. Défaite qui n'était pas vraiment prévisible, John. Alors on disait dans l'émission la semaine dernière que ce qui pouvait vraiment jouer des tours à Imavov, c'était, est-il en excès de confiance avant son combat? S'est-il vu trop beau? Est-ce que pour toi, c'est plus un problème d'approche psychologique du combat? Ou alors, est-ce qu'il n'est tout simplement pas au niveau, le protégé de Fernand Lopez?
Ouais, un des protégés de Fernand Lopez. Oui, il y a deux aspects pour moi que je retiens sur le combattant Imavov. C'est l'aspect psychologique et qui lui fait défaut. Il lui fait défaut, mais parce qu'on lui met énormément de pression. Hein. C'est un combattant très, très, très surcoté. Et ça lui met une pression de malade, en fait. Le fait de le présenter comme un génie du combat, comme un génie du MMA, alors que ça n'a rien à voir avec les performances qu'on voit dans la cage. Hein.
Il a le syndrome de l'imposteur, tu penses ?
C'est ?
Il a le syndrome de l'imposteur, tu penses ? Il se sait lui-même surcoté ?
Je ne sais pas si lui-même, il se sait surcoté, mais en tout cas...
John, oui. Il a eu un éclair de lucidité quand même après son combat. C'est qu'il a... Avant son combat, il disait « Laissez-moi un an ou je ne sais pas combien de temps et vous verrez, je serai champion de MMA. »
Un an et demi, oui.
Ouais, un an et demi. Et après son combat, il a dit « Bon, en gros, je pourrais être dans le top 10. »
Ouais, c'est vrai. Il a fait marche arrière quand même.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est un sursaut de lucidité. Mais effectivement, pour moi, Imavov, c'est un combattant qui a été surcoté mais que ça l'a plus handicapé qu'autre chose, en fait, hein, le ouais. fait de le présenter comme, comme ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, son surnom, le sniper, je n'arrive toujours pas à comprendre d'où il vient. Hein. C'est un combattant qui a 12 victoires, dont 4 par KO. Je ne sais pas d'où vient le surnom de sniper et pourquoi il lui a été attribué, mais il se revendique sniper lui-même. Je l'ai vu plusieurs fois dans des vidéos s'autoproclamer sniper. Lors de ses entraînements, mais le deuxième aspect, outre l'aspect psychologique et la pression énorme qu'il a sur les épaules, qu'on lui pose sur les épaules, c'est l'aspect manque de puissance. En fait, c'est un combattant qui veut toujours finir ses combats en un coup, mais il n'a pas le KO punch, en fait. C'est un combattant qui, déjà, n'a pas de vraie combinaison de combat. On l'a vu contre Sean Strickland. Il faut souligner que Sean Strickland, l'Américain, est venu avec 5 jours. Il faut pas dire qu'il a perdu contre le numéro 7. Il faut dire qu'il a perdu contre le numéro 7 qui, a entre son dernier combat du 15 décembre et aujourd'hui, ne s'est pas entraîné du tout.
Lui-même, une semaine avant, ne savait pas qu'il allait combattre.
Effectivement, il a été, il a été appelé 5 jours avant, hein, Sean Strickland. Dans un premier temps, il a refusé et ensuite, on lui a proposé un peu plus d'argent et il a dit « Ok, alors, dans ce cas-là ».
Justement, c'est ce que j'allais te demander, mais du coup, à mon avis, tu vas me dire le contraire. Est-ce que ce n'est pas justement le changement d'adversaire au dernier moment ?
Ça a beaucoup joué. Pour moi, c'est un mauvais calcul de la part de son, on va dire, de son encadrement, de son coach, d'avoir accepté, après avoir fait deux mois de préparation intensive, avec un gabarit exactement comme celui que l'adversaire qu'il était censé affronter.
Ouais, c'est pas les mêmes caractéristiques.
Castelum, oui, il est plutôt petit en taille, trapu, et on a vu dans son camp d'entraînement, pendant deux mois, il s'est entraîné avec le sosie de Castelum, physiquement. Ouais. Il s'est entraîné avec quelqu'un qui a les mêmes, les mêmes capacités, les mêmes...
Caractéristiques, quoi.
Caractéristiques physiques. Et pour moi, ça a été un mauvais calcul. On le voit maintenant après coup, que ça a été un mauvais calcul d'avoir accepté ce combat. C'était un piège, en réalité, ce combat-là. Et donc, juste, je voulais revenir sur l'aspect puissance. Imavov essaye à chaque fois de terminer ses combats en un coup. Il essaye de, comme il aime bien le dire lui, d'arracher la tête de ses adversaires, mais il n'y arrive pas. N'est pas Ngannou qui veut. Hein. Ngannou, contrairement à lui, sur 17 combats, c'est 14 KO. Ça, c'est quelqu'un qui a de la puissance. Mais Imavov, autant que Cyril Gane, son coéquipier avec qui il s'entraîne, qui est chez les poids lourds, hein, n'ont pas le KO, n'ont pas les points lourds, en fait. Ce sont pas des combattants qui arrivent à coucher sur un coup. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Il a pas l'air de le saisir. Il essaye toujours, sur tout le combat, sur 5 rounds, il a fait aucune réelle combinaison. Il a fait, il a pas utilisé de lutte. Il a tenté
une seule fois, je crois, sur. Bah, il s'est fait amener au
sol. Il s'est fait amener au sol. Il s'est fait amener au sol par quelqu'un qui a, par quelqu'un qui est venu sans aucune préparation. Hein. Ouais. Il s'est fait amener au sol. Il a pas réussi à l'amener au sol. Et il a dit devant les médias après le combat, j'ai essayé de l'amener au sol. J'ai vu qu'il était trop puissant pour moi. J'ai même pas cherché à tenter de nouveau.
Tu dis face à quelqu'un qui n'a aucune préparation, est-ce que ça veut dire que Imavov n'est peut-être même pas du niveau top 10 ?
Bah non, il n'était pas du top 10, hein. C'était un numéro 12, il comptait entrer dans le top 10, mais là il va chuter, hein. Perdre quelques places, il va se retrouver dans le top 15, voire le top 20. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, mais il faut arrêter de parler d'Imavov parce que c'est plus on va parler de lui, plus il va faire n'importe quoi, en fait, ce combattant-là. Alors,
donc finalement, si on résume, problème de technique de combat.
Non, techniquement, d'après les vidéos que j'ai vues de ses entraînements à la salle, d'après le témoignage des autres combattants avec lui à la salle, de ses sparring partenaires, à la salle, il arrive à tenir 15 rounds. À la salle, c'est le plus acharné, c'est celui, comme l'a dit Taylor Lapillus, il me semble, à la fin du combat, c'est celui qu'on est obligé de dégager de la salle, tellement il est dans la salle
H24. Donc tu dis que physiquement, il a le cardio pour tenir.
Physiquement, il a le cardio, mais après son cardio...
Est-ce qu'il a les armes ? Est-ce qu'il a la palette technique suffisante techniquement pour varier aussi, ses techniques de combat ?
Techniquement et physiquement, il a le cardio pour tenir. Après son cardio, est-ce qu'il est grillé par la pression qu'il a sur les épaules ? Vous savez, un cardio, ça peut être grillé en 30 secondes. Hein. Vous pouvez faire un marathon de 3 heures et perdre votre cardio à cause de la pression en 30 secondes, 2 minutes. Hein.
Et ça, on l'a vu pas mal de fois sur les précédentes cartes où si tu vas rapidement au sol, tu peux être cuit à la fin du premier round.
Ah, exactement.
Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Et pourtant, on l'a senti un petit peu emprunté physiquement.
Il y avait un défaut de puissance. Il y avait un manque de puissance clair et net pour moi. admettons qu'on lui donne le cardio, sachant qu'il était carbonisé à partir du deuxième, troisième round, il n'en pouvait déjà plus. Hein. Les conseils que Lopez lui donnait étaient plutôt bons, hein, même si parfois il s'en mêlait les pinceaux un peu, mais les conseils de faire du coach Fernand étaient plutôt bons, mais c'est lui qui n'arrivait plus à suivre. Mais admettons qu'il avait du cardio. Il aurait pas pu finir son adversaire parce qu'il a pas la puissance. Et sans la puissance, tu peux pas être champion. Tu peux pas que ce soit la puissance dans les points ou la puissance pour maintenir un combattant au sol et s'amuser avec lui au sol, je veux dire. Hein. C'est de la puissance également. Mais quand t'as pas la puissance ou dans tes points ou dans le maintien et le contrôle en lutte, tu peux pas devenir champion. Tu peux pas l'être.
Bon, je te propose qu'on s'élève en termes de catégorie pour qu'on trouve plus de puissance cette fois-ci chez les lourds. Et c'est assez spectaculaire ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières heures même, puisque coup de tonnerre à l'UFC, Francis Ngannou a annoncé son départ. Et également événement, c'est un coup par ricochet, hein. Un combat a été annoncé pour aller prendre la ceinture qui est donc vacante à l'heure actuelle. Cyril Gane, le français, va affronter John Jones dans quelques semaines. Donc sacrée opportunité pour ces deux combattants. Et puis par contre, la Francis Ngannou, ce n'est pas vraiment une surprise qu'on le voit partir donc sur une victoire. Hein. Finalement, il sort la tête haute de l'UFC. Il va peut-être aller gratter des contrats intéressants. Est-ce que c'est pour toi la seule raison, l'aspect financier, qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation?
Non, c'est clairement pas l'aspect financier de façon exclusive hein, qui a motivé ce choix de se séparer de Ngannou. Ngannou, c'est un homme qui voulait être libre. Il le clame depuis 2-3 ans. Il le dit qu'il aurait jamais re-signé un contrat. Son contrat arrivait à terme. Hein. Il arrivait à terme en décembre, le 31 décembre. Il arrivait à la fin de son contrat et il disait depuis 2 ans qu'il re-signera jamais un contrat, le même contrat. Il voulait un contrat avec un peu plus de liberté, avec une clause qui lui permette de faire des combats de boxe, même si c'est des simples combats d'exhibition, hein. Mais il voulait avoir plus de liberté dans ses mouvements.
Parce que les contrats que tu signes avec l'UFC, il y a des clauses d'exclusivité, c'est ça ?
Exclusivité, ouais. Et même à la fin de ton contrat, t'es encore engagé avec l'UFC pendant, de mémoire, c'était 5 ans. Par exemple, Georges St-Pierre avait terminé son contrat en 2018 et il a été libéré qu'en 2022. Encore une exclusivité de 5 ans avec l'UFC. Pendant ces 5 années après son dernier combat, il n'avait pas le droit de re-signer dans une autre organisation. Et Ngannou ne voulait pas de ça, mais il suffit d'écouter Ngannou une fois, deux fois, et tu comprends que c'est un homme qui veut juste être libre, hein, qui veut pas être menotté et tenu par un contrat de 8 combats ou de 10 ans dans une même organisation. Quoi.
Alors, ce n'était pas l'avis de Dana White, le patron de l'UFC, qui forcément pour aussi protéger sa vitrine, a dit non mais bon Ngannou, finalement il a peur de ne pas pouvoir conserver sa ceinture. Et on se souvient aussi que Ngannou, physiquement il ressort d'une grosse opération au genou. Est-ce que ça a pu entrer en ligne de compte? Est-ce que on peut donner en partie raison à Dana White?
Non, Dana White dit ça pour... Il défend sa chapelle, on va dire. Il défend son organisation. Mais Dana White et l'UFC ont perdu le combat contre Ngannou. Hein. Ngannou sort par la grande porte. Il sort en tant que champion. Il sort en tant que champion qui a battu le champion qui avait défendu le plus de fois la ceinture des poids lourds, Stipe Miocic. Et il a battu également le jeune espoir français, Cyril Gane. Hein. Il n'a pas fait... Et il sort avec... des KO qui resteront gravés dans tous les highlights de MMA. Hein. Il suffit de les voir tourner, des KO qui resteront à jamais. Quoi. Mais non, il a pas peur, il a clairement pas peur, il a gagné son combat. Et tant mieux pour lui que ça se passe de cette façon. Dommage pour nous, parce qu'on aurait aimé le voir contre la légende John Jones. Malheureusement, ça va pas se faire.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de John Jones? Qu'est-ce qu'il représente pour l'UFC? Nous rappeler un petit peu.
Alors, John Jones, pour l'UFC, c'est la deuxième plus grande star après Conor McGregor. C'est une superstar. Mais pour le MMA, c'est peut-être un peu plus que McGregor. Pour le MMA et ce qu'il a fait, ses accomplissements dans l'octogone, c'est clairement de l'équivalent d'un Mike Tyson en boxe anglaise. C'est la légende. Hein. Il est invaincu. Il a défendu son titre 14 ou 15 fois. Personne n'a réussi à trouver, on va dire, le moyen de le vaincre, de lui reprendre sa ceinture. C'est le plus jeune champion de l'UFC. Il a été champion, il me semble, à 22 ans.
Ouais.
Et
mais alors là, contre Cyril, il va monter de catégorie.
Ouais.
Est-ce que, du coup, ça peut lui faire perdre certains avantages qu'il avait dans la précédente catégorie ?
C'est possible, mais plus que ça, c'est surtout son inactivité pour moi. Son inactivité, 3 ans d'inactivité, ouais, c'est plutôt ça qui risque de jouer. Et comment dire, Cyril Gann et John Jones, quelque part, les deux peuvent s'annuler avec leur au niveau des points, parce que aucun des deux n'a le KO punch. Aucun des deux ne peut se mettre KO sur un coup. Et ça arrange ce combat, arrange très bien les deux, hein, même si Gann a quand même combattu Ngannou. C'est beaucoup plus simple pour un John Jones de prendre un Cyril Gann que de prendre un Ngannou qui peut le faire dormir avec un seul coup. Sachant que Gann a quand même des grosses lacunes en lutte et on voit très bien quelle physionomie de combat il y aura le 4 mars prochain dans quelques semaines.
On sait ça sera où, pas ?
À Las Vegas.
Mais est-ce qu'il est préparé psychologiquement pour ça, Cyril Gann ?
Ah, je sais pas, franchement je sais pas. Hein. Cyril Gann, il a une personnalité qui fait qu'il est un peu hermétique à la pression par rapport à Imavov, on va dire. Mais est-ce qu'il sera prêt ? Je ne sais pas. Hein, quand on voit ses remarques, ses réflexions...
Voilà, peut-être un peu trop d'humilité à ce niveau-là.
Oui, un peu trop respectueux du personnage, du sportif. Moi, ce que je dis, c'est qu'à ce niveau-là, il faut respecter l'homme qui est John Jones, mais en tant que combattant, tu dois pas respecter ton adversaire.
Ah, j'ai l'impression qu'il part un peu perdant, en fait,
avant d'affronter une légende. C'est un peu la même chose qu'il avait avant d'affronter Ngannou. Il partait un peu perdant, un peu trop respectueux. Et c'est le même reproche, hein, là, avant même, à l'annonce du combat, on voit les déclarations de Cyril Gann, c'est un rêve d'enfant, je vais affronter le Michael Jordan. Mais non, c'est ouais, pas comme ça.
Pour les médias français, ça plaît, forcément.
C'est ça, hein, ouais.
On a quelqu'un de poli, qui est performant, qui n'est pas grossier, qui est mainstream, tu vois. Ouais.
Surtout face à quelqu'un qui, lui, pour le coup, est tout le contraire. Hein, la drogue, les prostituées, les scandales
tout,
médiatiques.
Non, mais même au niveau du combat, hein, John Jones, il a le dirty style. Par exemple, il sait que Ngannou s'est fait opérer du genou. Il n'hésiterait pas une seule seconde à frapper sur son genou pendant 2-3 rondes, hein, sur le genou sur lequel il s'est fait opérer. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand il rentre dans l'octogone. Hein. Il a le dirty style.
Est-ce qu'on est d'accord que c'est le plus grand rendez-vous pour un combattant français de l'histoire ?
Ah oui, clairement, absolument. C'est si Cyril Gann, et il a quand même une chance de gagner, hein, si Cyril Gann l'emporte, il aura fait tomber une légende.
Ouais.
Ça vaut plus que 10 défenses de titre. Hein. Il aura fait tomber une légende. Mais malgré tout, s'il gagne, on se dira quand même, oui, mais il s'est fait battre par Ngannou. Il y aura quand même
Oui, c'est ça, il n'y aura jamais de match retour.
On dira. Et si John Jones gagne, clairement, l'UFC veut que John Jones gagne. Hein. Clairement, l'UFC...
Pour quelle raison ?
Autant elle voulait que Cyril Gann l'emporte contre Ngannou, parce qu'elle voulait dégager Ngannou, se séparer de lui tout simplement. Autant là, c'est le champion de l'UFC qui s'est pas fait battre par l'ancien champion. Il s'est fait battre par personne en poids lourd. Ça sera son premier combat. Donc l'histoire, elle est d'autant plus... C'est d'autant plus simple d'effacer l'histoire d'Ngannou derrière ça en disant « Voilà, c'est lui le vrai GOAT, c'est lui le plus terrifiant des poids lourds, etc. » Alors que si c'est Cyril Gann, tout le monde dira « Oui, mais... »
Bon, bah, en tout cas, rendez-vous. On en reparlera bien sûr d'ici là, mais donc ça sera dans la nuit du 4 au 5 mars prochain à Las Vegas, le français Cyril Gann qui va affronter la légende John Jones. Merci John. On va revenir au tennis avec notre invité Jean-Jacques Cellier pour le Trap Passing Shot. In a world for one night only, they're all here. Please, welcome to the stage.
Il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission Parlons Sport et la parole est à Jean-Jacques Cellier, directeur sportif du Trap Passing Shot, le club de tennis. Le projet était de redynamiser la pratique du tennis dans la ville de Trap. Jean-Jacques, ces dernières années, ces derniers mois, où en êtes-vous aujourd'hui ?
Alors, effectivement, c'était le projet et ça passait incontestablement par une structure en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions autant les jeunes que les familles, puisque les parents accompagnent leurs enfants. L'ancienne structure sur Gagarine devenait compliquée, voilà, pour développer aussi des projets, dynamiser le projet avec les familles, l'activité, l'attractivité. Là, on l'a rêvé, écoutez, en collaboration avec la municipalité, cela a été fait. Donc, on a eu la livraison de la structure il y a à peu près une dizaine de mois, et on en voit les effets assez rapidement. Puisque on a eu pas mal d'années des difficultés à essayer de monter des groupes de personnes qui sont un petit peu, je dirais, qui deviennent des personnes ressources au niveau du club pour travailler autour du développement de projets en interne déjà, des petits mini tournois, revenir sur des tournois, ensuite peut-être un jour avec le temps et notre travail, notre investissement, revenir sur un tournoi homologué comme il existe dans toutes les villes avoisinantes. Ça a été le projet, la structure en elle-même. Deux cours couverts, ce qui a permis là de démarrer aussi un projet grâce à cette nouvelle structure aussi, avec l'association de Yannick Noah, Faites le Mur. Donc il y a eu deux projets simultanés, un projet qui a été voulu et souhaité avec comme vecteur de l'insertion le sport, et là en particulier donc forcément le tennis. Donc entre novembre et décembre, il y a eu ce que l'association Faites le Mur appelle un job dating. Évidemment, et ça a effectivement bien fonctionné, parce que là il s'agit aussi de l'insertion des jeunes de Trap au niveau professionnel, donc ils ont été présents avec les villes avoisinantes aussi. Ça, c'était un premier projet, puis on a eu un deuxième qui a effectivement fait plaisir, je dirais, aux jeunes de 7-8 ans, puisque le vendredi après-midi on a aussi, dans le cadre de Faites le Mur, des jeunes de Trap qui bénéficient de cours, voilà, et Yannick Noah nous a fait plaisir par sa présence. Alors après, il y a forcément des choses comme ça qui nous interpellent sur les cours. Les enfants n'ont pas tout de suite été les petits. On avait l'impression qu'eux ne connaissaient pas bien Noah dans un premier temps. Mais en tout cas, on a vu les pères et les mères, en tout cas, crier de joie à l'arrivée de Yannick Noah, qui a participé ensuite avec eux. Les gamins, ce sont donc des enfants qui n'ont pas véritablement encore de pied dans le club de Trap lui-même. Mais c'est un tremplin aussi pour s'inscrire au niveau du club. Voilà, donc ça...
Combien d'adhérents aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est à 100-115 adhérents, alors qu'on était uniquement avec le Covid, etc. On devait être à peu près à 52 adhérents. Donc, il y a une chose aussi très importante. On sait, quand il y a une nouvelle structure sur une ville, c'est déjà une augmentation de 30%, en dehors même du Covid. Quand il y a une nouvelle structure et qu'il y a quelques informations qui sont faites dans les magazines ou les journaux locaux, automatiquement, c'est une augmentation de 30% à peu près, selon les chiffres de la Ligue des Yvelines.
Alors, le défi n'est-il pas, dans une ville comme Trappes, d'essayer d'aller chercher les jeunes qui se dirigent habituellement vers le foot, vers le basket, de grosses structures sportives à Trappes. Comment aller chercher ces jeunes et puis les amener vers un sport qui n'est pas réputé pour être très populaire, mais plutôt pour être élitiste?
Alors effectivement, à Trap, je dirais, difficile d'aller concurrencer momentanément le foot et le basket, mais je crois qu'il y a vraiment une ouverture possible, parce que tout simplement, dans ce qui se passe le vendredi soir, ce sont des jeunes, je dirais peut-être même prédestinés ou destinés au foot au départ, et finalement ils viennent et ils reviennent, parce qu'il y avait eu l'inquiétude aussi de est-ce qu'ils allaient pouvoir revenir après avoir pratiquaient un peu ce sport, est-ce qu'ils allaient se désister à un moment donné? Eh ben, on a vraiment une émulation là, et des jeunes de 8, 9, 10 ans, et même ça va jusqu'à 14, 15 ans, qui ne sont pas nombreux, les petits sont plus nombreux, mais on sent une émulation là qui est en train de se jouer. Après, à nous, au niveau du club, là, en revanche, le club même, en dehors même de l'association Faites le Mur, ou en tout cas en collaboration aussi, mais surtout le club, de réfléchir aussi, et c'est le projet du club en interne, et le bureau, c'est de réfléchir sur des permanences, des journées pour inviter à travers une information qui serait faite par aller déposer dans les boîtes aux lettres une information, dire tel jour le club de tennis organise, sans se soucier de savoir si le jeune va être adhérent ou pas ou est licencié du club. C'est une sorte de porte ouverte. Voilà un petit peu l'objectif et vers quoi on veut tendre aussi, avec une priorité, parce qu'il y a quand même une satisfaction du club là, parce qu'on est, contrairement à quelques il y a quelques années, on est vraiment à 80% ou à 85% d'adhérents trappistes. Voilà, donc on a doublé notre effectif et on sent naître là aussi au niveau des adultes une volonté de se retrouver, ce qui ne se faisait pas. Alors si on me demandait comment on pense aussi faire en sorte que des gens s'inscrivent à Trappes et comment les concurrencer aussi, ça passe par plein de choses, hein. C'est la vie d'un club tout simplement, et cette vie-là, elle est aujourd'hui possible parce qu'on a un cadre et un lieu qui le permet. C'est quoi une vie de club? C'est pouvoir un samedi après-midi s'octroyer du temps pour nos adhérents et organiser, comme il y a eu ce week-end, une galette, voilà, tout en pratiquant le tennis. Eh ben, il y a eu des gens qui n'étaient pas prévus dans les familles qui sont venus et qui ont joué un peu au tennis.
Alors, les axes de développement souhaités pour toi en tant que directeur sportif, qu'est-ce qui permettrait justement d'amener un peu plus de monde, d'encadrer davantage les jeunes? Est-ce que c'est encore des cours supplémentaires, une modernisation de certaines infrastructures, des moyens aussi pour encadrer les jeunes? Ce serait quoi?
Alors, je dirais là, dans un premier temps, avec une urgence même absolue, hein, c'est voilà, il est très difficile pour les petits clubs de pouvoir avoir des enseignants même et des entraîneurs. Je dirais là, Trappes doit vraiment se consacrer à ça, parce que on est vraiment dans une période compliquée. D'ailleurs, il y a un paradoxe et presque une contradiction quelque part. D'un côté, on a la livraison d'une structure qui est vraiment reconnue, hein, par tout ce qui est superbe, et de l'autre côté, ce club qui a souffert pendant des années, avec aussi des départs des entraîneurs après énormément d'années, parce qu'il y a eu très peu de turnover. On a aussi cette épée de Damoclès sur notre tête, qui est de dire, voilà, comment on va faire aussi, parce que c'est bien de développer, de donner énormément d'heures, mais le tennis réclame forcément que quelqu'un puisse donner les heures. Et là, on a vraiment un vrai problème sur lequel on se penche très fortement depuis 2 ans, et malgré le fait qu'on s'y penche depuis 2 ans, ça reste très compliqué.
Voilà. Il faut être bénévole pour vouloir entraîner?
Il faut en tout cas un petit diplôme. Ouais. Donc voilà. Donc on essaie là, nous, de voir au niveau des jeunes de notre club de 18 ans, 19 jeunes, de pouvoir aller à la ligue pour pouvoir passer ces 2-3 journées là et pouvoir obtenir le diplôme leur permettant de donner des cours à des enfants. Voilà. Parce que là, on est sur vraiment quelque chose qui peut devenir extrêmement compliqué. Voilà, ça tiendra encore 2 ans, il y a pas de problème, mais là il faut, je dirais, en dehors même des adhérents, si on augmentait trop vite nos adhérents, on ne pourrait pas suivre la cadence. Bon, donc il faudrait augmenter les entraîneurs.
Il nous reste quelques instants, tu peux lancer un appel là à nos auditrices, à nos auditeurs qui nous écoutent, qui t'écoutent, comment rejoindre le Trappes Passing Shot pour venir s'entraîner ou alors pour venir enseigner aussi, Jean-Jacques.
Alors, pour venir s'entraîner, donc c'est effectivement au niveau du centre Monco, hein, où il y a des permanences sur certains jours. Il y a aussi,
et c'est là où il y a les nouveaux cours couverts.
Tout à fait, et c'est là où se trouvent les cours couverts. Il y a aussi les numéros de téléphone, voilà, si je pense qu'il y a aussi dans le guide de la ville, il y a aussi l'association Trappes Passing Shot, avec les numéros de téléphone de la présidente et du recteur sportif, ici présent donc, ce soir. Donc il y a cette possibilité-là, et cette possibilité-là, et puis peut-être là pour les entraîneurs, n'hésitez pas, il y a des heures à donner, et des heures assez intéressantes, hein. Je sais que la grande difficulté difficulté parfois pour quelqu'un qui veut donner des cours, c'est de ne pas avoir uniquement une heure ou deux heures, voilà. Donc on a vraiment des heures à donner et à discuter ensuite par rapport, n'hésitez pas à contacter la présidente, hein, Madame Foucheron et Jean-Jacques Sellier, moi-même directeur sportif, pour qu'on puisse en discuter, mais là il y a un besoin et on est en capacité. Je sais que parfois, des jeunes diplômés au niveau de la Ligue des Yvelines cherchent des clubs, parfois n'ont pas cette information. En tout cas, sachez là, à travers, je profite de ce micro, donc ce soir, pour dire que on a des heures à offrir et vraiment, c'est un club qui est aussi reconnaissant de ce qui se passe, voilà. Donc on est prêt aussi à discuter à tous les niveaux, rémunération, conditions d'accueil, voilà, pour que des enseignants puissent nous contacter et venir donner ces cours à Drape.
Puis tu as prouvé en début d'émission que tu as aussi beaucoup de pièces. Merci.
Effectivement, et c'était effectivement pour conclure aussi sur, parce que j'ai vu que dans le fil conducteur il y avait Trappe, donc j'avais parlé un peu de sous d'entrée, oui, effectivement.
Merci Jean-Jacques Sellé, directeur sportif du Trap Passing Shun. Merci d'avoir été présent au micro de Parlons Sport. Merci Ryan. On suivra avec toi régulièrement donc l'Open d'Australie. Merci John. On se revoit très bientôt pour du MMA. Merci Julien en région. On remercie également Aliou qui était avec nous par téléphone. C'est la fin de Parlons Sport. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bon match et bonne semaine.
Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.